Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 22 du podcast Un instant, une vie. Je suis Joëlle Lecravert et aujourd'hui je reçois Isabelle Coton. Isabelle s'émerveille de tout et vit la vie comme un miracle de chaque instant. Le suicide de son mari, la mort de son père, la perte de son œil, tout cela en peu de temps, lui ont enseigné que tout s'arrête un jour et nous ne savons jamais quand cela va arriver. Alors, si nous ne vivons pas l'instant présent, que vivons-nous? Et vivre cet instant, ce n'est pas résister à ce qui se présente, mais accueillir chaque situation pour se laisser traverser par les ressentis et émotions, sans jugement, avec infiniment d'amour et de compassion. Vous pouvez contacter Isabelle via son numéro de téléphone au 06 45 33 95 37 et par mail à coton.isabelle@9.fr. Si vous aussi vous pensez que la vie est la magie de l'amour et du sacré à l'œuvre, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties de podcast, inscrivez-vous sur mon site et puis sur toi.fr. Et je vous laisse découvrir l'inspirante Isabelle Coton.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Joël.
Isabelle Coton, ravie.
Oui. Moi aussi, je suis ravie.
Et je propose que tu te présentes. Qui es-tu aujourd'hui, Isabelle Coton?
Alors, je suis un être vivant. Ça, c'est important pour moi de dire que je suis un être vivant, au même titre que la mousse, la coccinelle, le brin d'herbe. Voilà, je suis un être vivant. Et plus particulièrement, je suis une femme. Un être humain, femme. Une humaine. Voilà.
Une humaine femme incarnée sur Terre pour faire
incarnée
des expériences.
C'est ça.
Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours de vie à te voir et te sentir aujourd'hui d'abord comme un être vivant?
Je crois que c'est la rencontre brutale avec la mort de mon mari, qui a mis fin à ses jours il y a un petit peu plus de 10 ans. Et ce jour-là, j'ai vraiment ressenti à quel point la vie était sacrée et j'ai pris conscience que j'étais un être vivant, finalement, face à un être qui était devenu mort. Comme si avant, pour moi, la vie, c'était naturel finalement. J'étais vivante, mais j'avais pas posé une conscience aussi aiguë sur le fait que j'étais vivante. Et le jour où j'ai vu la mort en face, où tout s'arrête, tout s'effondre, tout s'écroule, j'ai ressenti d'une façon extrêmement, je dirais violente, la puissance de la vie qui pouvait être finalement au service de la mort. Parce qu'en fait, un suicide, je dirais que c'est à la fois c'est la mort et à la fois c'est une puissance vitale qui va se mettre au service de la mort.
C'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire qu'il y avait... C'est comme si l'énergie de vie... parce que pour faire un acte de cette nature, il faut énormément de courage, énormément de puissance. Pour moi, c'est un acte de puissance, d'une énergie folle, je dirais, jusqu'à aller s'enlever la vie. Donc, finalement, la vie, la mort, c'est, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est une énergie qui peut être au service, de la vie, mais c'est une énergie qui peut être aussi au service de la mort, mais c'est toujours de l'énergie de vie. Je sais pas si c'est clair.
Si, c'est une vision tout à fait étonnante pour moi, ça, ce que tu dis, ça me touche. En fait, ce que je comprends, c'est que dans l'expérience que tu as faite ce jour-là et dans les années qui ont suivi, c'est que pour être capable de se donner la mort, il faut d'abord être en vie.
Oui.
Et que pour être capable de donner la mort, il faut avoir la capacité de faire ce geste.
Oui.
Et que c'est parce que t'as cette énergie de vie que tu peux aussi mourir.
C'est ça.
Ouais. Oh, c'est une vision tout à fait particulière.
Oui, j'entends. Tu vois, je te le dis aujourd'hui de cette manière-là. Je pense l'avoir jamais dit de cette manière-là. Mmh. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans la spontanéité de notre échange, je sais ce qui me vient. Mmh. C'est comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai senti dans les mots que Pascal a laissés, dans la manière dont il a écrit son mot, c'était extrêmement déterminé. C'est-à-dire qu'il y avait des points d'exclamation à la fin des phrases, il y avait une écriture très très appuyée, et on sentait qu'il y avait une détermination. Et qu'est-ce que c'est que cette détermination? Quelle est l'origine de cette détermination, de cette force, de ce courage, si ce n'est la vie? Tout est vie.
Tout est vie.
Tout est vie. La mort fait partie de la vie. Et ça, on le dira jamais assez. La mort, c'est pas la fin de la vie, en fait. La mort, tout est dans la vie. Il n'y a rien en dehors de la vie. Et donc, ce jour-là, où j'ai eu la mort de l'homme de ma vie en face de moi, j'ai vraiment conscientisé, mais d'une manière, mais extrêmement, j'ai dit violente tout à l'heure, et je dirais en même temps extrêmement aiguë, la vie, quoi. C'était la vie, quoi. C'était la vie. Je sais pas comment dire plus. J'ai senti une force en moi, une énergie en moi qui était celle de la vie et qui, à la fois, qui était mêlée évidemment au chagrin, à la souffrance. Il n'y a pas de mots pour décrire un tel abîme de souffrance, mais toute cette puissance, c'était la vie. C'est pas autre chose que la vie, cette puissance. Qu'elle soit souffrance, qu'elle soit joie, qu'elle soit, c'est une manifestation de la vie. Donc c'est vrai que moi, depuis cette terrible épreuve, je ne me suis jamais aussi sentie vivante. Voilà. Qu'après avoir rencontré la mort de cette manière-là.
Dans les quelques mois qui ont suivi le décès de ton mari, tu as vécu des moments assez particuliers aussi, en plus.
Oui, c'est vrai qu'après le décès de Pascal, j'ai vécu une période peut-être d'un mois, deux mois, où en fait, je crois que j'avais rencontré la source. C'est comme ce qu'on pourrait appeler peut-être un moment d'éveil, c'est-à-dire que le jour où j'ai vu Pascal accroché à son arbre, l'image qui me vient, c'est que mon cœur s'est brisé en mille morceaux et la lumière est entrée avec infiniment d'amour. Un amour démesuré, un amour pour et une infinie compassion pour, je dirais, pour la vie en général. C'est-à-dire à travers la compassion et l'amour que j'ai ressenti pour Pascal, cet amour était un amour pour tout ce qui est vie. Et cette lumière dont je parle, cet amour infini, en fait, je pourrais le décrire aujourd'hui comme une connexion au grand tout, au grand mystère, à quelque chose de bien plus grand que moi, que jusque-là, je n'avais pas approché de cette manière aussi forte. J'en avais déjà eu, surtout quand j'étais petite, j'ai toujours eu la sensation d'être bien plus que la petite fille. J'ai toujours, la petite fille Isabelle, j'ai toujours eu cette conscience qu'il y avait quelque chose en moi qui était intouchable et qui ne mourrait jamais, qui était éternel. J'ai toujours eu ça, toute petite. Et j'ai toujours trouvé, toute petite, la vie extraordinaire, comme un miracle. Et j'ai toujours ce souvenir, parce que je m'en rapproche de plus en plus avec mes expériences de vie. Aujourd'hui, je me rapproche de plus en plus de cette petite fille innocente qui s'émerveille en se réveillant le matin en se disant « Waouh, j'ai une journée devant moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, découvrir, expérimenter ?» Et au fur et à mesure de mon dépouillement personnel et de mes expériences et de me rapprocher toujours plus près de qui je suis, eh bien, je me rapproche de cette petite fille joyeuse et émerveillée. Et ça, c'est délicieux.
Mmh. Oui, mais tu as d'ailleurs un visage délicieux et émerveillé, je trouve.
Merci, Joël. Oui, merci. Mmh. Je me réjouis de la vie. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que donc pendant ces deux mois à peu près qui ont suivi la mort de Pascal, en fait, j'étais sur un autre plan. C'est-à-dire que j'étais à la fois sur le plan terrestre, bien sûr, dans tout mon chagrin, dans une immense souffrance. Il n'y a pas de mots pour décrire un tel chagrin. Il n'y a pas de mots. Et en même temps, j'étais baignée dans une dimension supérieure, je dirais, sur un autre plan, quelque chose que j'avais jamais expérimenté à ce point, qui faisait que ça se manifestait de cette manière suivante, de la manière suivante. C'est-à-dire qu'en fait, je parlais en vers et j'écrivais, il fallait que j'écrive. Tout était sous forme poétique, c'est-à-dire que mon chagrin, mes ressentis, mes émotions, tout était discible sous forme de poésie. C'était une espèce d'alchimie de la souffrance qui se manifestait en moi de manière poétique, comme s'il fallait à tout prix transformer ce qui était dramatique en quelque chose de beau. Et ça se faisait sans que je le veuille. Ça s'est fait tout seul, en fait. Et donc, j'avais des blocs de papier partout dans ma maison, dans les toilettes, dans ma voiture, dans toutes les pièces, parce que j'avais une profusion de beauté, d'amour qui me traversait. Et je pouvais pas le garder en moi. Ça débordait, ça dégoulinait, en fait. Donc, je l'écrivais. Et ça a duré, alors, disons que cet état un petit peu, de connexion vraiment à la source, à bien plus grand que moi, qui me mettait sur un autre plan, en fait. J'étais à la fois sur le plan terrestre, mais j'étais vraiment sur un autre plan. C'est difficile à exprimer. Eh bien, en fait, ça a fait qu'il y a des gens qui se sont éloignés de moi ou qui comprenaient pas mon attitude et en fait qui ont disparu complètement de mon environnement alors que c'était des amis très très proches parce qu'en fait ils avaient l'impression que je devenais folle en fait sans doute et que ça leur faisait peur.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Probablement d'ailleurs que si tu avais été ausculté par un médecin psychiatre, il t'aurait peut-être dit effectivement que il y avait quelque chose qui était parti, parce que c'est tellement catalogué tous les états un peu extrêmes que c'est compliqué à comprendre. Ça fait pas partie de notre culture. Dans les cultures plus primaires, plus en lien avec la terre et le ciel, ça fait partie, toutes les transes, tout le processus de deuil extrême qui est accueilli, qui permet aussi la transformation. Ça fait partie de la culture, mais en Europe, en Occident, pas du tout.
C'est ça. Ça fait que, en fait, je me suis retrouvée seule, finalement, puisque, d'une manière générale, quand quelqu'un est dans la souffrance, c'est toujours difficile pour l'entourage d'accompagner la personne en souffrance parce qu'on sait pas comment faire, on se sent impuissant face à cette tristesse et moi dans la manière dont j'ai accueilli ma souffrance, en fait, c'est-à-dire que je me laissais traverser par tout ce qui arrivait, c'est-à-dire si j'avais besoin de crier, je criais, si j'avais envie de pleurer, je pleurais, si j'avais pas envie de me lever pendant 3 jours, je me levais pas pendant 3 jours et je laissais faire le corps, les émotions sans aucune limite. Et donc ça, c'était pas confortable pour les gens autour de moi. C'est-à-dire que si on m'appelait, si on me demandait comment j'allais, je disais je vais très très mal et j'ai envie de mourir. Et ça, les gens ils peuvent pas entendre ça. Donc j'ai compris assez rapidement que de toute façon il y avait qu'une seule personne qui pouvait m'aider, c'était moi. Et que les personnes de mon entourage, bon, avec mes enfants, c'est différent parce que là, on était tous vraiment touchés par le même chagrin de la perte de l'être cher, même si c'était à des niveaux différents, un papa pour eux et un époux pour moi. Mais au niveau de mon entourage, même mes sœurs, mes amis proches, j'avais qu'une envie, c'est de me retirer de ce cercle familial pour pouvoir ne m'occuper que de moi. parce qu'en fait les autres personnes pouvaient pas m'aider et c'était plutôt moi qui devais les aider finalement à gérer leur souffrance de savoir ce qui m'était arrivé moi, quoi. Donc en fait je me suis coupée complètement pendant 2 ans quasiment, et pendant ces 2 années en fait mon seul interlocuteur c'était Pascal. En fait, j'étais pendant 2 ans, j'étais avec Pascal, là où il était, et moi là où j'étais. Eh bien, en fait, j'ai écrit des poèmes qui lui étaient destinés. Et au bout de 2 années, eh bien, j'ai ressenti l'élan de partager tout ce que j'avais vécu pendant ces 2 ans et que j'avais donc écrit sous forme poétique. J'ai eu un élan, mais immédiat, il fallait que je crie ça au monde, ce que j'avais vécu pendant 2 ans, c'est-à-dire cet immense chagrin. Et donc j'ai publié un livre qui est simplement le recueil de tous les textes que j'ai écrits pendant ces 2 années de deuil, absolument dans l'ordre. Je ne les ai pas retouchés. Il y a chaque poème que j'ai écrit sur un bloc de papier, il y a aucune rature. C'était d'une fluidité absolue. Et il y en a même qui sont en alexandrin. Et j'ai été très étonnée de ce miracle qui s'est produit à l'intérieur de moi où des textes jaillissaient. Alors qu'il n'y avait rien au niveau du mental, c'était pas ma volonté, c'était une nécessité. Et c'était très beau, quoi. Je peux pas dire autrement. Et j'en ai fait un livre.
Un livre qui s'appelle Jardin secret du chagrin, jardin secret de l'amour.
C'est ça. Ouais. Et le chagrin est amour, en fait. Et, ouais. C'est ça. Le chagrin, c'est rien d'autre que de l'amour. Ouais. Associé à de la tristesse, bien sûr.
Ouais, le chagrin n'apparaît que lorsque on est touché.
C'est ça, lorsqu'on aime.
Ça se rapproche de ce que tu disais tout à l'heure, la mort n'est possible qu'à partir du moment où il y a de la vie, donc le chagrin n'est possible que à partir du moment où il y a de l'amour et où la personne se sent vraiment touchée par ce qui se passe.
C'est ça, pour moi, tout est à inclure. Tout est un. Il n'y a rien à opposer. Et ça aussi, ça détermine un comportement dans la vie, c'est-à-dire on sort de la dualité, on sort de l'identification et on entre dans une dimension qui est la dimension du tout, la dimension du un, de l'unité. Et ça, pour moi, c'est des prises de conscience très importantes, qu'il n'y a pas de séparation.
Il n'y a pas de séparation, c'est notamment fait l'expérience... d'une façon difficile quand même. Ouais.
Tout à fait. Ouais, tout à fait.
Tu as dit à un moment donné, la lumière est entrée, et c'est un peu comme s'il fallait cette brisure de cœur et d'être pour que tu puisses toucher à cette partie de toi.
C'est vrai. Cette partie de moi, comme je disais tout à l'heure, je l'ai touchée aussi quand j'étais enfant. Vraiment. Dans la toute petite enfance, j'ai vraiment cette conscience que de cette unité, de cette cette idée de l'éternité aussi, de l'éternité et de l'unité. Quand j'étais enfant, je l'avais. Et après, eh bien, l'éducation, l'environnement familial, l'environnement social, j'ai vraiment pour moi, la vision que j'ai de façon très imagée, c'est un entonnoir ça se rétrécit, ça se rétrécit, on rentre dans un moule, dans un entonnoir, et tout se contracte, tout se resserre, tous les conditionnements qui nous sont imposés, toutes les règles. Et pour moi, ça, c'est vraiment une prison, quoi. J'ai vraiment cette sensation d'avoir, au fur et à mesure de ma croissance, d'être dans un étau qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre. Et là, aujourd'hui, je sens bien que, déjà, bien avant le décès de Pascal, hein, j'avais déjà fait des thérapies, parce que je ressentais des mal-être, justement, des emprisonnements, et j'avais déjà entamé des processus de
du travail
de thérapie,
personnel.
De travail personnel bien avant la mort de Pascal, bien sûr. Enfin, j'avais déjà 30 ans, j'étais déjà dans un processus de thérapeutique. Et puis tout au long de ma vie, comme je te l'avais dit déjà un petit peu, Joël, je me suis formée à un outil qui est l'énéagramme, qui m'a beaucoup apporté, qui pour moi a été une renaissance. Et donc je dirais que ça fait j'ai plus de 60 ans aujourd'hui, ça fait bientôt 35 ans que je suis quand même dans une quête permanente du qui suis-je et du mieux-être.
Du mieux-être ou du bien-être?
J'ai dit du mieux-être, hein, c'est-à-dire que je voulais être je voulais sans doute me sentir bien, mais me sentir mieux parce que je me sentais pas bien.
Ouais, ça commençait par le mieux déjà. Ouais.
Ouais, c'était d'abord le mieux, hein, parce que vraiment il y avait quand même il y avait c'est ça. Ouais.
Donc tu as partagé ce premier deuil très difficile pour toi. Est-ce que ça t'a permis d'apercevoir en termes d'importance de la vie et de l'inclusion de la mort et de la vie inséparables l'une de l'autre, mais la vie justement t'a amené d'autres morts et d'autres deuils aussi à transformer.
Oui, en effet, un an après, mon papa est décédé et en fait il avait une maladie, il avait un cancer, mais je pense que la mort de Pascal a précipité sa propre mort. Donc mon père était très lié avec Pascal, qui était un petit peu comme son fils, je dirais. Il avait trois filles et il n'avait pas eu de garçon, et Pascal était un peu comme son fils. Et Pascal s'est donné la mort le jour de l'anniversaire de mon père, donc c'est quand même pas rien. C'est très difficile. Et papa est mort un an après Pascal. Donc, alors que moi, j'avais pas terminé le deuil de Pascal, eh bien, j'étais à nouveau plongée, d'une part, dans l'accompagnement de fin de vie de mon père, c'est-à-dire à peu près, on va dire, 6 mois après la mort de Pascal. Et donc, j'étais vraiment, je baignais dans cet univers de fin de vie, vraiment. Et c'est vrai que c'était une période extrêmement difficile. Et puis, un an après la mort de mon père, c'est-à-dire 2 ans après la mort de Pascal, alors que je reprenais, on va dire, goût à la vie, que ça y est, mon livre était publié, et pour moi, symboliquement, ça représentait la fin d'un processus extrêmement douloureux, et j'allais enfin pouvoir m'ouvrir à la vie. Et je commençais à ressentir vraiment les prémices de la douceur de la vie. C'était l'été et j'avais décidé de faire un stage de danse, un stage de biodanza pour justement incarner ce désir de vie qui revenait en moi. Et malheureusement, en voulant tondre ma pelouse la veille de mon départ dans la Drôme pour faire ce stage, un caillou a été précipité dans mon œil alors que je tondais la pelouse. Et mon œil a été déchiré. Et au lieu d'aller faire ce stage, j'ai passé à peu près 3 semaines à l'hôpital avec 3 interventions sur mon œil pour essayer de récupérer de la vision, et malheureusement ça n'a pas été possible. Donc j'ai dû faire un 3e deuil qui était le deuil de mon œil. Et tout ça en 2 ans. Donc c'est vrai que c'était une période aussi extrêmement difficile où je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça, quoi? Pourquoi tout ça? Et je dois dire que j'ai vraiment eu envie que ma vie s'arrête, en fait, que c'était trop. Et bien petit à petit, à nouveau, la vie est forte, hein. La vie est revenue en moi. Elle n'était jamais vraiment partie. En tout cas, la petite flamme s'est rallumée. Et au fur et à mesure, des jours qui passaient, je me suis rendu compte, en fait, j'ai pris conscience, comme jamais j'avais pris conscience, que j'avais un œil qui voyait les couleurs, les formes, la beauté, et je n'avais plus qu'une envie, c'était de remercier. Et je n'étais plus dans la perte de cet œil, mais dans la joie d'avoir un œil pour voir. Et ça, c'est vraiment l'alchimie, c'est vraiment la transformation, quoi. C'est, je crois que c'était la dernière touche, c'était la touche finale pour me faire voir à partir de ce moment-là la vie à travers, eh ben tout ce que j'avais et non pas tout ce qui pouvait me manquer. C'est-à-dire ouais. que maintenant, ça m'a amené sur une autre vision du monde, c'est-à-dire mais une vision de l'abondance. C'est-à-dire je perds un œil et j'ai encore une possibilité de voir. Il y a toujours quelque chose. On perd jamais tout. Et au fur et à mesure des pertes, ce qu'on a, la conscience de ce qu'on a, elle est renforcée.
Ça devient encore plus précieux.
C'est ça. Tout devient précieux. Tout devient précieux. Et donc, je crois qu'à la limite, on pourrait perdre une jambe, un bras. Il reste un bras, il reste une jambe. Enfin, il reste toujours de la vie. Tant qu'il reste de la vie, eh ben, tout est merveilleux finalement. Voilà.
Cette capacité que tu as eue à travers ces différents processus de prendre soin de toi, d'honorer le cheminement du deuil réellement et de cette capacité de dire oui, effectivement, j'ai perdu quelque chose et je suis triste et je suis en colère et c'est pas juste. D'accepter ce processus-là tout en accueillant aussi la joie d'être encore vivante, la joie d'être avec ceux que tu aimes, la joie de pouvoir voir. Et justement, tu partageais le fait que ça avait complètement transformé ta façon aussi de te manifester dans ta photographie, par exemple.
Ah oui, tout à fait. Ça, j'en avais pas conscience. C'était ma sœur avec qui j'avais fait un séjour en Corse. Et peu de temps après avoir perdu mon œil, peut-être un an, et jusque-là, je faisais des photos panoramiques, en fait. J'adorais les paysages, les visions à 360 degrés. D'ailleurs, j'avais acheté un petit appareil vraiment qui faisait de la photo panoramique. Vraiment pour ça, quoi. Et puis, quand je suis allée en Corse avec ma sœur, donc j'avais pris plein de photos j'avais fait un album et j'avais montré ça à ma sœur. Elle m'avait dit, mais Isabelle, mais tes photos, mais ça n'a rien à voir avec des photos effectivement panoramiques. Et là, c'était des petits détails, des petites choses. Je me souviens particulièrement d'une photo. On était à une terrasse de café et il y avait une grille en fer forgé. Donc avec qui formait des arabesques comme ça, des cœurs, enfin voilà. Et puis il y avait un bateau au loin qui était passé. Et comme j'ai une vision, j'ai plus du tout j'ai pas le grand angle. J'ai vraiment un champ de vision limité et j'ai pas la profondeur de champ, enfin beaucoup moins. Et j'ai vraiment vu le bateau au moment où il est passé dans la petite boucle là qui était formée par le fer forgé. Et j'ai pris la photo à ce moment-là, mais ça donne des photos extraordinaires, quoi. Et le fait aussi que parfois, vu que je n'ai pas la profondeur de champ, si par exemple je vois passer une mouche, pour moi c'est comme si c'était un oiseau. Ou si au loin, il y a une petite feuille qui bouge, il y a une brise qui fait bouger la feuille. Et avant que mon œil analyse l'image, c'est pas immédiat en fait. J'ai pas une lecture immédiate de l'image. Eh bien, je peux voir des choses un petit peu imaginaires et donc je cherche à comprendre l'image parce que c'est pas simple d'emblée et ça me fait voir des choses que je n'aurais jamais vues autrement. Par exemple, je peux voir un petit truc qui brille tout d'un coup dans un arbre et hop, ça m'interpelle parce que j'ai pas la lecture de l'image et donc je vais me focaliser dessus et là je vais voir une petite toile d'araignée dans laquelle il y a une petite coccinelle et crac, je vais faire une photo. Et je l'aurais jamais vue si j'avais eu mes deux yeux. C'est pas possible. Donc en fait, j'ai l'œil du photographe. Je focalise. C'est extraordinaire.
Tu focalises, ouais. Et tu défocalises parce que dans ce que tu partages, ce que j'entends, c'est cette capacité aussi émotionnellement et avec toute la personne que tu es aujourd'hui, de défocaliser justement. Puisque tu ne focalises pas sur la problématique, tu défocalises pour regarder tout ce que la vie t'apporte. Et en même temps, tu focalises parce que tu as acquis cette capacité à focaliser grâce au fait d'avoir perdu un œil. C'est assez extraordinaire comme une façon de voir les choses. C'est le cas de dire. vois.
Ah oui, tu vois, j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant, cette idée de défocaliser. Et c'est vrai que ça, je le fais, mais vraiment très très souvent, c'est-à-dire que quand il y a un petit truc, tu vois, qui peut être ennuyeux sur le plan matériel, tu vois, des petites choses, on va dire des petits soucis, tout de suite je prends cette vision de l'aigle, tu vois, je m'éloigne, je prends ma distance et j'observe ça comme un petit détail de la petite histoire d'Isabelle, voilà, tu vois. Et ça m'amène à, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, à cette désidentification aussi. Je fais le lien avec la désidentification avec tout ce qui nous arrive. En fait, tout ce qui nous arrive, pour moi, ce sont des supports, ce sont des expériences pour toujours ouvrir notre conscience et grandir, en fait. Tout est opportunité. Et pour moi, c'est de plus en plus, je suis dans ce processus où, quels que soient les événements que je traverse, des événements qui peuvent être difficiles, comme tout le monde, des soucis, tu vois, je me désidentifie, c'est-à-dire je me mets en position d'observateur et je vois l'histoire d'Isabelle Cotron qui se déroule sous mes yeux. Et en tant que incarnation d'une âme qui est beaucoup plus que, enfin voilà, qui habite ce corps et qui a plein d'expériences à vivre, et ben là je vis cette expérience, et ben je la vis et j'en ai conscience, je l'observe et j'en tire des enseignements. J'ai vraiment ça en permanence, en fait. Je fais des va-et-vient continus entre ma personnalité, donc liée à mon incarnation, et aussi plus grand que moi, quoi, ma reliance au grand tout. Et ça permet beaucoup de lâcher prise et de pas s'accrocher à des choses qui nous enferment, quoi. Ouais. Et de rester dans cette espèce de joie et de ce miracle de la vie qu'on a à expérimenter. C'est un cadeau, quoi. Waouh, c'est un cadeau d'expérimenter ça. Ouais, c'est joyeux.
Tu reviens à la joie et à l'émerveillement de l'enfant qui a la chance de faire l'expérience chaque jour de choses nouvelles. Ouais.
C'est ça. Je me le dis très souvent. Combien de fois je me dis, oh, j'ai de la chance, quoi. Je sais pas, de voir un beau paysage, dans une relation, dans le partage de ce que je vis avec mon compagnon, cet amour qui circule entre nous. Je me dis, waouh, mais la chance qu'on a, quoi. Et plein de fois, je me dis, j'ai plein de chance. Je suis vraiment très souvent en gratitude. Là, ce matin, je suis allée dehors, mais il y avait une lumière. Le temps est magnifique en ce moment. On a un magnifique automne. Les feuilles sont jaunes d'or. J'ai un boulot devant la maison. Après, j'ai un grand jardin où là, les feuilles étaient dans une espèce de brume ce matin et le soleil commençait à poindre. Là, ça faisait des reflets partout. C'était comme des pièces d'or au sol. Mais c'est pas magique, ça? C'est pas de la magie. Pour moi, c'est de la magie. Ouais. Ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Quoi d'autre que l'émerveillement?
Moi, j'ai été émerveillée par le choix que t'as fait aussi pour l'œil que tu as, dont tu as perdu la vision, parce qu'à un moment donné, j'avais dit l'œil que tu as perdu, tu m'as dit non, je l'ai pas perdu. Je l'ai encore, mon œil.
Ah oui. C'est vrai que la proposition qui m'a été faite, par le chirurgien, c'était d'enlever cet œil pour mettre une prothèse à la place. Et moi, j'ai dit non, on m'enlève pas mon œil. C'est un œil abîmé, il est comme il est, voilà. À la limite, c'est comme une tasse ébréchée. Voilà, elle peut quand même servir, elle a toujours sa place. Et bien là, mon œil, il ne voyait plus, mais je voyais pas pourquoi on allait l'enlever si ce n'était pour un souci d'esthétique. Et j'ai fait le choix c'est là que j'ai décidé de continuer la biodanza, qui est une activité où on est vraiment en lien avec l'autre, où on danse avec l'autre, où on le regarde dans les yeux. Et donc pendant un an, je pouvais pas avoir de prothèse de toute façon, parce qu'il fallait que l'œil soit cicatrisé. Et j'ai fait le choix d'accélérer de faire encore plus de biodanza qu'avant, pour oser regarder l'autre dans les yeux avec un œil qui était pas beau, mais parce que ça faisait partie de moi, parce que c'était mon histoire, et qu'aujourd'hui, j'étais plus Isabelle avec deux beaux yeux, un beau regard, j'étais Isabelle avec un nouveau regard, et que c'était vraiment, ça faisait partie du processus d'acceptation, c'était comme ça. Et donc, j'ai gardé mon œil, et j'ai eu la chance d'être mise en relation avec un prothésiste qui fait des prothèses qu'on pose par-dessus l'œil. Et la chirurgienne m'avait dit, vous savez, il y a peu de gens qui supportent ce genre de prothèse, c'est pas confortable, etc. Je dis, c'est pas grave, je vais essayer, si je supporte pas, ben j'aurai pas de prothèse et je resterai avec mon œil qui est pas beau. Et mon œil qui est pas beau, c'est mon œil. Et finalement, j'ai eu la chance donc de rencontrer cet homme qui m'a fait 24 prothèses.
Wow.
C'est pas rien, hein. Jusqu'à ce que à la dernière prothèse, à la 24e, il me mette la prothèse, il me regarde, il me dise, Isabelle, je crois que ça, c'est vraiment ton regard, c'est toi. Et quand il m'a montré mon visage dans le miroir, j'ai dit, waouh, c'est vrai, ça y est, c'est moi. Mmh. Voilà, c'était merveilleux.
Ça me touche vraiment parce que le chemin que toi t'as fait par rapport à ça, le fait d'accueillir ton visage, ça me fait penser au regard qui est porté sur la vieillesse, au regard qui est porté sur toutes ces marques du temps que la société nous demande ou qu'on se demande à soi-même, les deux, de faire disparaître parce que voilà, c'est l'injonction culturelle qui est posée. Et je trouve ça très très inspirant, ce parcours-là, et je trouve très inspirant l'accompagnement de cet homme qui a fait 24 prothèses, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un vrai engagement dans la présence et dans l'accompagnement de l'autre.
C'est ça, ça dépasse vraiment comment dire la technique de fabriquer une prothèse pour une personne qui a perdu un œil. Là, c'est vraiment un acte d'amour pour moi.
Oui,
c'est
un acte d'amour.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est magnifique. Alors cette personne est devenue un ami, quoi. Voilà, ouais. C'est clair. Hein. Waouh, il m'a redonné mon regard, mais je lui suis reconnaissante, mais vraiment, hein. Ouais, il fait partie de ma vie. Je veux dire, il est dans mon cœur, il est dans mon œil, il est dans mon cœur tous les jours, quoi. C'est clair. Ouais.
Et du coup, ça t'a permis aussi tout ce processus de commencer à créer un espace autour de toi d'accueil et d'accompagnement à la transformation aussi.
C'est ça. En fait, d'une part, la mort de Pascal suite à 2 années de souffrance, de dépression, donc de mal-être profond, et ma propre souffrance à moi, bon, liée tout simplement à ma personnalité, la névrose, hein, on est tous dénévrosés, et mes expériences de vie qui m'ont donc fait vivre quand même pas mal de souffrances, ressentir beaucoup de souffrances, de douleurs, eh bien, tout ça, le fait, moi, d'avoir réussi à retourner dans la joie, dans la paix et dans l'envie profonde de vivre, eh bien, j'ai qu'une envie, c'est d'offrir ça aux autres. C'est-à-dire que ce processus, maintenant que je l'ai fait pour moi, et c'est pas terminé, c'est jamais terminé, mais tant que je serai vivante, j'aurai toujours des choses à apprendre et j'aurai toujours à grandir, et voilà. Mais je peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible, parce que ça s'offre. Pour moi, ça participe au bien-être de toute l'humanité, c'est-à-dire que mon propre bien-être à moi, il est fait pour être offert et pour amener les autres à plus de bien-être. Je peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. C'est fait pour être offert. Ouais. Parce qu'en fait, on est un, encore une fois, on est un, et ce qui m'arrive à moi, eh bien, en fait, ça arrive à l'autre, et ce qui arrive à l'autre, ça m'arrive, et quand l'autre va bien, moi, je vais bien. On est un organisme, je dirais, l'humanité, c'est pour moi un organisme vivant, et chaque partie, chaque humain, c'est comme une cellule dans un corps, Et quand il y a une cellule qui va bien, elle participe au bien-être du tout, quoi. Mmh. Donc, moi, si je vais mieux, ça participe au bien-être du tout et ça doit s'offrir, ça doit se communiquer, se partager. Ça peut pas être, ça sert à rien si ça reste que en moi.
Ouais. Comment tu fais pour le partager, du coup?
Alors, du coup, j'offre donc, je propose ma maison à l'accueil de stages de personnes qui pour moi sont des personnes inspirantes, qui sont des enseignants et qui dont j'ai déjà expérimenté moi-même les stages et où j'ai vu des processus à l'œuvre et pour moi et pour d'autres qui sont vraiment très très puissants et donc j'offre ma maison pour que les stages se déroulent chez moi. Et je viens d'en vivre un, là, ce week-end, un stage sur la danse des émotions. Et waouh, quelle beauté, quel bonheur de voir ces personnes partir nourries, remplies, avec des prises de conscience. C'est cadeau, quoi. C'est vraiment un cadeau pour moi. Ouais. Mmh. Voilà. Et puis, je vais... là, je suis dans l'élaboration d'un stage. Donc, en fait, pour l'instant, depuis un an, j'accueille des stages. J'en ai accueilli 5 ou 6 et des concerts aussi. Et là, j'ai un concert pour l'instant, mais il y en aura un autre. Et là, je me sens prête à partager aussi, en particulier autour de l'outil Ennéagramme, qui est pour moi un outil de prédilection. Et ça y est, là, je suis en train d'organiser un stage qui aura lieu au mois de juin dans les Alpes, qui sera l'Ennéagramme dans le corps en lien avec la randonnée en montagne. Et ça me réjouit. J'ai un élan, ça me met en joie, quoi. Ouais, je suis prête à offrir ça.
Ah, oui. Génial. La transformation. Mmh. Qui amène, ouais, du coup, le plus de liens et encore plus d'amour.
C'est ça. Mmh. Quoi d'autre? Quoi d'autre sur cette terre que de s'aimer? Pour moi, il n'y a pas autre chose, hein. C'est juste aimer. Ouais. Mmh.
Mmh. Merci beaucoup, Isabelle. Je trouve que c'est une belle façon de finir ce partage. Et tous ceux qui souhaitent s'inscrire à ton stage.
Eh ben, écoute, je crois que tu vas mettre sur ton site, hein, tu mets les numéros de téléphone et puis les mails, hein.
OK.
Voilà. Donc, pour l'instant, les dates sont posées, mais bon, c'est pas complètement finalisé, hein, le contenu, tout ça, hein, voilà. Mais si on veut être en contact avec moi, il suffit de me téléphoner.
OK, bah, super.
Et d'envoyer un mail. Voilà.
Je mettrai ton numéro de téléphone et ton mail dans la description et tous ceux qui souhaitent faire cette randonnée.
Mm-hmm. Et la découverte de l'énéagramme. C'est vraiment associé.
Et la découverte de l'énéagramme avec la randonnée. Tous ceux qui s'intéressent peuvent te contacter d'une manière téléphone ou mail.
C'est ça. Et puis aussi, j'en profite pour dire que s'il y a des personnes qui ont justement qui propose des stages aussi, parce que moi j'ai fait des stages donc sur justement apprivoiser la mort et se sentir vivant. C'était un super stage aussi, ça. J'ai aussi accueilli des stages sur la voix et un stage aussi sur la peinture. Donc s'il y a des personnes aussi qui cherchent des lieux pour proposer leur stage, pourquoi pas aussi. Alors moi je me trouve à côté de Poitiers, au nord de Poitiers.
Super.
Et voilà. Sachant que je précise aussi que pour la capacité des stages, c'est pas plus de 10 personnes. Voilà.
Donc des stages intimes.
C'est ça. Exactement. Voilà. C'est ça.
C'est un bon chiffre.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup Joël. Vraiment, c'était un super cadeau aussi ce partage avec toi, cette rencontre avec toi. Je suis ravie. Voilà, et si mon témoignage peut participer à ce que des personnes se sentent encore mieux, ou voilà, si ça peut inspirer, j'en suis ravie. C'est encore un cadeau, quoi.
Oui, ce sera sûrement inspirant pour beaucoup, puisque je trouve que le parcours que tu as traversé, la façon dont tu l'as transformé, sont tout à fait extraordinaire pour moi.
Merci beaucoup, Joël. Merci.
Bien, je vous dis au revoir à toutes et prochain épisode.
Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie.